Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore salués. Hop, un instant. Alors, je m'en excuse par avance, mais je vais aborder un sujet dont vous n'avez pas entendu parler depuis longtemps et qui vous manque. Le coronavirus. Je savais que ça faisait longtemps, mais je vais vous poser une question un peu plus originale. Est-ce que quelqu'un pourrait nous expliquer pourquoi, si Dieu existe, déjà 3 millions de personnes en un an, 3 millions c'est les estimations, hein, c'est sûrement plus, 3 millions de personnes sont mortes dans le monde depuis un an à peu près. Pourquoi ? Et pourquoi toutes ces personnes décédées, et on le sait parfois dans la solitude et pas forcément dans des conditions de deuil satisfaisantes ? Et face à toutes ces questions, on se sent bien impuissant, on se sent bien petit face à ces questions, n'est-ce pas ? Mais je mentionne le Covid, mais de la même manière qu'on apprend la maladie, le cancer, ou je ne sais pas, un accident que quelqu'un a eu, ou alors qu'on apprend tel fait divers ou telle mauvaise nouvelle, on se sent petit. Une de nos amies avec Eleonore nous a partagé récemment la maladie de son beau-père. Et elle disait, lui qui a été médecin et qui a passé toute sa vie à s'occuper des autres, pourquoi donc c'est lui qui est malade aujourd'hui ? Il a passé toute sa vie à s'occuper des autres et pourquoi il est malade ? Pourquoi, Seigneur ? Alors que l'on soit chrétien ou pas, ces questions, on se les pose, on peut se les poser. Où est Dieu dans toutes ces catastrophes et dans cette pandémie qui nous assaille depuis un an ? Des grandes questions, des questions complexes, mais soyons convaincus, en aucun cas des questions sur lesquelles la Bible est muette. Comme si nous, c'est un sujet dont on ne saurait pas trop quoi répondre, donc on évite le sujet. Non, la Bible a plein de choses à répondre à ce sujet, si tant est qu'on veuille bien l'écouter et l'entendre. Et c'est ce que nous allons faire ce matin, avec quelques versets dans l'évangile de Luc, chapitre 13. Évangile de Luc, chapitre 13. Et à travers la réponse que Jésus va donner à deux faits divers qui sont arrivés récemment du côté de la Palestine, Jésus va apporter une réponse, et avec cette réponse, on ne va pas répondre. Je n'ai pas du tout cette ambition-là de répondre à 100% de cette grande question de pourquoi le mal, une grande question. Mais on va voir au minimum deux choses ce matin. C'est qu'au minimum, le mal est un rappel de notre nature déchue et imparfaite. Ce sera un rappel. Mais le mal est aussi un appel à nous tourner vers le Dieu Sauveur. Un rappel et un appel. Vous devriez vous en rappeler. C'est parti. Je vous invite donc à la lecture dans la Bible Second Matin, page 674, les cinq premiers versets du chapitre 13 de l'Évangile de Luc. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Un peu glauque, hein ? Verset 2, Jésus leur répondit « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Verset 4, « Ou bien alors ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuée, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem ? » Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez de même. Première partie. À cette époque, il n'y a pas de BFM TV ou de CNews, et donc ce sont donc des personnes qui vont informer Jésus, qui vont lui raconter un fait divers. Nous aujourd'hui, on l'a sur la dépêche AFP, là c'est quelqu'un qui vient voir Jésus et leur raconte que plusieurs Galiléens ont été attaqués et tués par Pilate et ses troupes. Alors, à ce moment-là, on est donc au 1er siècle, ça fait à peu près un siècle, depuis moins 80 environ, que toute la Palestine, Galilée comprise, a été conquise par Rome et est sous administration romaine. Mais ce que l'on entend par le mot « administration », ce n'est pas notre administration à nous, fait avec des formulaires CERFA, des attestations, et des papiers à amener en préfecture. Non, non, C'est, qui dit administration romaine, c'est en fait c'est une garnison romaine qui est en Palestine, qui est minoritaire et qui n'hésite pas à montrer les muscles pour maintenir la paix et garantir taxes et impôts. Et à la tête, en Palestine, à la tête de cette administration, un préfet, Pilate, un homme connu pour sa violence et sa cruauté. Même l'historien Joseph, l'historien juif Joseph, parle de Pilate comme étant quelqu'un de cruel et violent. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là exactement entre Pilate et ses Galiléens? Bon, on ne sait pas exactement, hein, on n'a pas tous les détails. On n'a pas tous les détails. Mais on comprend, à la réponse de Jésus, on comprend que peut-être on était venu rapporter cet épisode à Jésus pour que lui, le prétendu Messie, le libérateur d'Israël, ben, peut-être qu'il puisse prendre position, pour qu'il puisse critiquer Pilate, pour qu'il puisse critiquer la présence romaine en Palestine. S'il voulait libérer Israël, là, il avait une occasion toute faite de le faire. Et peut-être qu'aussi on était venu lui poser cette question pour que Jésus réponde à cette grande question. Pourquoi le mal? Pourquoi ce drame? Pourquoi ça s'est passé? Alors parfois le mal qui nous touche est causé par d'autres personnes, spécifiquement tel Pilate ici. Parfois le mal nous scandalise, mais sans que ça soit dû à une personne en particulier. Un tremblement de terre, un accident, une maladie, un virus. Ce n'est pas forcément une personne. Et c'est d'ailleurs à cette seconde catégorie à laquelle Jésus étend la discussion dans la suite de sa réponse. On vient le voir pour des Galiléens et dit « Eh oui, mais c'est exactement la même question pour ces 18 personnes qui ont été tuées par la chute d'une tour à Siloé. » Alors, cette chute à Siloé, est-ce que c'est dû à une personne mal intentionnée? Non, a priori c'est seulement la dégradation naturelle de la résistance mécanique d'un mur qui a fini par chuter. C'est la physique des matériaux, tout simplement. Parfois le mal arrive ici-bas par la faute de quelqu'un d'immoral, parfois il arrive naturellement, telle cette tour qui tombe. On appelle le mal moral et le mal naturel, deux catégories. Mais dans les deux cas, peu importe que ce soit un mal naturel ou un mal moral, vous avez vu que Jésus répond en fait la même chose et qu'il pointe sa réponse vers la même réponse. On va regarder à ce que Jésus ne répond pas. J'aime bien faire cet exercice. Qu'est-ce que Jésus ne répond pas à son interlocuteur? Premièrement, Jésus n'accuse pas spécifiquement Pilate, ni les constructeurs de la tour à Siloé qui ont mal fait leur boulot. Pourtant, trouver des coupables, absolument condamner un coupable, on sait bien faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on aurait fait un procès au cabinet d'études qui avait fait les plans de la tour de Siloé. On aurait eu le droit à un beau procès. Il faut trouver des coupables. C'est forcément de la faute à quelqu'un. Non, ce n'est pas ce que Jésus fait. Deuxièmement, et c'est également surprenant, Jésus n'accuse pas les 18, les Galiléens ou les 18 personnes. Il ne dit pas « mais c'est de leur faute, c'est de leur faute à elles, et sûrement que la veille au soir, elles avaient dû faire quelque chose de pas bien, et que donc, paf, pour la peine, jugement, le lendemain, elles ont un accident, ou alors elles sont attaquées par Pilate et ses troupes. Bien fait pour elles. » Alors cette idée d'un Dieu qui punit instantanément ceux qui font n'importe quoi est une idée en fait bien ancrée dans notre pensée populaire et dans d'autres religions. Je prends l'exemple de l'hindouisme avec la réincarnation. La réincarnation, c'est ce qu'il y a de pire. Si tu as une mauvaise vie, alors tu vas te réincarner dans quelque chose d'encore pire, la vie d'après. Et si aujourd'hui tu as une vie pourrie, c'est ta faute parce que probablement dans une vie d'avant, tu as fait quelque chose de mal. Bon, tout ça, ça date pas d'hier, hein, c'est pas spécifique à l'hindouisme. Dans la Bible aussi, on le trouve. Demandez à Job et ses amis dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'il lui dit, ses amis? S'il t'arrive tous ces malheurs, c'est probablement que tu as dû faire quelque chose de pas bien. À vous, c'est forcément logique. Non. Ce n'est pas ce que Jésus fait ici, ni envers les Galiléens, ni envers les 18 personnes à Siloé. Mais à l'inverse, Jésus ne dit pas que ces personnes sont parfaitement innocentes. Étaient-ils des plus grands pécheurs? Peut-être plus que la moyenne, mais elles n'étaient pas innocentes. Aujourd'hui, quand un drame arrive, notre réflexe, le réflexe humain, et d'attribuer aux victimes toutes les qualités possibles et inimaginables, post-mortem. Toutes les qualités, de leur accorder toute l'innocence nécessaire pour pouvoir nous crier à la justice d'autant plus fort. Ce n'est pas ce que Jésus fait ici. Il ne les béatifie pas post-mortem. Il ne leur accorde pas la Légion d'honneur sous prétexte qu'elles ont été victimes d'un crime ou alors d'avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment, à Siloé. Pas de Légion d'honneur post-mortem. Au final donc, ce que Jésus ne répond pas, ce qu'il ne cherche pas à faire, c'est de trouver une explication personnelle, individuelle, rationnelle à chacun de ces drames. Simon, pourquoi mon beau-père est malade alors qu'il a été médecin toute sa vie ? Jésus ne fait pas ce lien. Alors donc, que répond donc Jésus ? S'il ne rejette la responsabilité de ces drames ni sur un individu en particulier, ni sur la physique des matériaux. Jésus, en fait, il va plutôt chercher à dézoomer. Il va chercher à dézoomer, à voir plus large pour apporter du sens à ces drames. Vous savez que j'aime bien la photographie. Et pour capturer certaines scènes, certains paysages, il ne faut pas utiliser un zoom. Il ne faut pas utiliser une loupe, on ne comprend rien aussi dans ce que c'est. Au contraire, il faut dézoomer, voir plus large, comme dans les gorges de la Nesque où nous étions hier avec papa. C'est magnifique, mais on comprend là où on est à condition de dézoomer. Et c'est ce que Jésus va faire ici, et il va élargir la réflexion et poser une question plus large que le seul incident avec Pilate ou Siloé. Verset 2, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort ?» Non. Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous aussi, vous pourriez périr de même. Waouh ! Jésus dézoome, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Bon, on l'a vu que ces Galiléens ou ces personnes à Siloé n'étaient ni parfaitement innocentes, ni plus coupable que la moyenne. Ça, on vient de le voir. Par contre, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en conséquence, les autres Galiléens, les autres personnes vers Siloé, les autres, nous, les autres, pourrions subir le même sort. Nous serions en effet tout aussi pécheurs, coupables, responsables que ces personnes. Alors, coupables de quoi ? Responsable de quoi ? Pour cela, il faut de nouveau dézoomer. Regarder plus large que la Galilée, voire plus loin que Siloé. Ce que Jésus dit, et en fait ce que toute la Bible dit, c'est que nous sommes tous les humains, nous sommes tous responsables d'avoir rejeté Dieu. De quelle manière ? Soit en s'opposant à lui, soit en l'ignorant. Mais ça revient au même dans les deux cas. Et dès le début, dès les premières pages de la Genèse, Genèse 3, la chute, dès le début ça commence comme ça. L'homme ne veut en faire qu'à sa tête. Et aujourd'hui, rien de nouveau sous le soleil, ça continue. L'humanité entière est concernée. Qui d'entre nous ne s'est jamais opposé à Dieu ? Qui d'entre nous ne l'a jamais soit rejeté, soit ignoré ? Nous sommes tous concernés. Et c'est ça qu'est en train de dire Jésus dans le cas de ces personnes. Alors, et c'est là où on comprend que le mal est entré dans un monde qui était initialement parfait, Genèse 1 et 2. Plus rien ne tourne rond, telle une horloge déréglée, qui fonctionne plus bien. Alors ça se concrétise soit de manière à travers des crimes immoraux tels ceux de Pilate, ou alors des fois ça se concrétise, ça se traduit par des tours qui tombent, par des virus qui se propagent, ou par des incendies qui détruisent. Ces drames, en fait, ne sont que le reflet, ne sont que la conséquence d'un mal plus grand en amont. En fait, le mal d'une humanité qui voudrait un monde parfait, mais sans être elle-même parfaite. Et pire que ça, une humanité qui voudrait d'un monde parfait, mais sans le Dieu parfait. Vous voyez l'incohérence ? Et donc, à partir de là, une victime qui est une humanité qui est autant victime que responsable. Les deux sont mélangés. Victime et responsable. Alors je vais tenter d'illustrer cela avec un parallèle d'actualité avec mes filles et leur capacité, on en a parlé longuement ce week-end, leur capacité à mettre leur chambre en bazar. Combien de fois par jour nous leur disons de ranger leur chambre, de ne pas laisser des trucs par terre? Elles savent pourtant ce qu'on leur a demandé. Elles savent ce qui serait bien, ce qui serait bon. Je vois tous les parents qui font Et puis arrive le jour, peut-être cet après-midi, ou peut-être la semaine dernière, arrive le jour où leur chambre est en sang dessus-dessous, depuis plusieurs jours, l'une d'elles, aïe, marche sur un Lego et se fait mal au pied. Douleur, pleurs et compagnie. Est-ce de la faute du Lego? Est-ce de la faute de celle qui s'est fait mal sur le pied parce que c'est elle qui aurait laissé cette brique à cet endroit-là, donc ça serait de sa faute et bien fait pour elle? Pas forcément, j'en sais rien qui a dérangé. Bref, c'est pas là la question. Est-ce que c'était dans sa chambre à elle? Pas forcément, peut-être c'était peut-être chez sa sœur, hein, j'en sais rien. Mais en fait ici, il faut de nouveau dézoomer. Il faut regarder ni au Lego, ni au pied, ni à savoir qui est la chambre de qui. Il faut savoir en fait à ce qui est à la base, à ce qui est en amont. C'est-à-dire le fait qu'aucune d'entre elles ne nous écoute sur ce sujet. Il est là le problème, il n'est pas sur la brique de Lego. Et de même, dans notre monde, le mal, la tour qui tombe, Pilate, le Covid, tout ça ne sont que des... Le mal n'est qu'un signal, un symptôme, un rappel, et c'est là où un rappel, que quelque chose ne tourne pas rond ici-bas. Il est la preuve qu'on est dans un monde imparfait. Et peu importe au final son origine morale ou naturelle, le mal est un rappel que notre monde est désormais imparfait et déréglé. Le mal est un rappel que notre monde est désormais imparfait. Un peu comme pour les bricoleurs, Bernardo qui a beaucoup d'électricité actuellement, un peu comme un court-circuit récurrent dans un tableau électrique, ça révèle quelque chose, en amont quelque chose de bien plus grave que le simple fusible qu'il faut remplacer et qui est pénible. Mais c'est quelque chose qui est en amont qui est bien plus grave. Mais bon, je sais que tu n'as pas ce souci parce que tu fais tout bien, mais voilà. Ce problème de fond, au final, il est plus grave et il nous concerne tous puisqu'il s'agit en fait de notre, la Bible appelle nature déchue, on pourrait dire ça, qui fait qu'in fine, on est tout aussi co-responsable que ces Galiléens ou que ces personnes à Siloé. On est dans le même bateau, au final. Mais deuxième partie, c'est que si le mal est un rappel de notre nature déchue et imparfaite, si le mal est un rappel, il est surtout un appel à nous tourner vers le Dieu Sauveur. Et c'est notre deuxième partie. En effet, l'objectif de la venue de Jésus n'est pas de juger ses auditeurs, de les condamner, de se faire un malin plaisir à les condamner, mais au contraire, de leur offrir, de nous offrir, encore une fois, vous l'avez compris, on dézoome, on est inclus dans cette histoire, de nous offrir une solution et une issue de secours. Vous connaissez très bien Jean 3,16. Vous connaissez peut-être un peu moins bien Jean 3,17 que Jean nous a lu il y a quelques semaines. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Un peu comme tu nous l'as dit, Kevin, dans Deutéronome, Dieu est un Dieu de compassion qui prend plaisir, non au jugement, mais à la compassion. Ainsi, dans notre passage, Jésus ne se contente pas d'inclure ses auditeurs, de nous inclure dans cette grande question du mal, mais en fait face à ce problème qui est collectif, qui nous englobe tous, que l'on veuille ou non, il propose une solution individuelle et personnelle. Il propose une solution individuelle et personnelle. Qu'est-ce qu'il propose Jésus? De nouveau, on va regarder à ce qu'il ne propose pas. J'aime bien faire cet exercice. Il ne propose pas une formule à réciter par cœur, quelque chose à apprendre par cœur, telle par exemple, telle la profession de foi des musulmans, qui vous savez, cette phrase à réciter par cœur pour être et rester un bon pratiquant. L'essentiel, c'est de dire cette phrase. Non, ici, il n'y en a pas de phrase à faire. Est-ce que Jésus donne une liste de bonnes choses à faire ? Ok, tu as fait du mal, mais voilà, je te donne tout ça à faire et ça ira bien. Ça va compenser ce que tu as fait. Non plus. Est-ce qu'il donne un RIB pour envoyer une somme d'argent et si tous les mois je vois bien la somme qui arrive, c'est bon, c'est gagné. Non ? Jésus ne fait pas. Ah, est-ce que Jésus donne un exercice d'hypnose et de méditation intérieure avec qui va régler tous nos problèmes, qui va nous réconcilier ? Non plus. Pourtant, c'est des solutions qu'on entend aujourd'hui, hein. Et en fait, loin de tout cela, Jésus va offrir une solution. Kevin, tu en as parlé. On appelle ça donc la repentance. La repentance comme issue de secours. Verset 3, verset 5. Mais si vous ne changez, il le dit deux fois, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Donc la solution, changer d'attitude. Changer d'attitude, faire demi-tour, sont des bonnes définitions, des bons synonymes de la repentance. Alors ça paraît simple. Ça paraît très très simple. Trop simple, peut-être. Mais vous savez, comme moi, comment notre orgueil humain est fort. Et on peut parfois préférer rester sur une fausse route plutôt que d'oser faire demi-tour. Si, si, chérie, je suis sûr que c'est la bonne route. Je reconnais, t'inquiète pas, je sais que c'est la bonne route. On n'ose pas faire demi-tour. Faire demi-tour, changer sa manière de vivre, c'est bien beau, mais pour se tourner vers quoi ? C'est-à-dire qu'une seule voie, c'est bien beau de changer de chemin, mais où aller ? S'il n'y a pas d'autre solution, s'il n'y avait pas d'autre solution, à quoi bon chercher et vouloir faire demi-tour ? Exemple, si je vous demande de changer votre manière de respirer pour ne plus consommer d'oxygène. Très bien. Je vais vous convaincre, je vais vous sortir plein d'arguments, très bien. Mais comment faire ? Vers quelle autre solution se tourner ? Ça serait ridicule de vous demander cela, il n'y a pas d'autre manière de faire. Mais quand Jésus appelle à la repentance, quand il parle de demi-tour, ben c'est que, en fait, s'il parle de ça, c'est que oui, il existe une manière de vivre autrement face à tout ce mal qui nous assaille et nous désole. S'il n'y avait pas d'autre manière, il ne s'embêterait pas à nous appeler à changer de faire demi-tour. Et en ce sens, le mal n'est pas qu'un rappel, mais c'est un appel téléphonique à nous tourner. En ce sens, le mal est un appel non téléphonique, mais un appel à nous tourner vers un Dieu saint, un Dieu sauveur, un Dieu patient, un Dieu rédempteur. Et c'est là où il y a une solution. En effet, premièrement, on peut se tourner vers un Dieu saint qui ne tolère pas le mal. Dieu ne tolère pas le mal. Il ne s'en accommode pas. Dans ce passage, Jésus ne dit pas « Ah, c'est pas grave, c'est ainsi ». Serre les dents, courage. Dans d'autres passages des évangiles, par exemple avec la résurrection de Lazare, on voit Jésus pleurer de compassion, de colère même, quand il voit toutes ces personnes déboussolées, dont Marthe et Marie, déboussolées face à la mort, face à ce chagrin. Jésus ne s'accommode pas de cela. Un peu comme aujourd'hui avec le Covid, où on essaye de vivre avec. On essaie de s'en accommoder, d'être résilient. On essaye de faire avec, c'est pas grave. On essaie de vivre malgré tout. Dieu ne se dit pas, bon bah ok, le mal est là, c'est pas grave, on va essayer de s'en accommoder, on va vivre avec. Non, il ne le tolère pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il le juge si sévèrement. C'est pour ça qu'il le condamne si sévèrement. Plus que la politique zéro Covid de certains pays. C'est pour ça. Donc Jésus de Dieu ne tolère pas le mal. Et deuxièmement, donc on veut se tourner vers lui. Et deuxièmement, il sait ce dont il s'agit. Il connaît la souffrance humaine. Il connaît ce qu'on a vécu en Jésus-Christ, justement. Il est venu, il s'est incarné. Donc il sait de quoi il parle. Il n'est pas depuis là-haut, devant avec la petite image du Dieu sur un nuage qui essaie de deviner ce qui se passe en bas. Non, il connaît. Il a mis les mains dans le cambouis, si j'ose dire. Et il a eu à faire face bien plus qu'à la méchanceté de Pilate ou un accident du côté de Siloé. Il a eu à faire face au rejet, à la persécution, à la faim, à la trahison, à la souffrance et à la mort elle-même. Donc, à ce jour, plus que nous réunis, hein, nous tous réunis. Le Dieu vers qui on veut se tourner est un Dieu qui connaît, qui sait ce dont il s'agit, qui connaît les dégâts que ça a fait dans notre monde. Il l'a vécu lui-même. Il l'a vécu, et troisièmement, pourquoi on veut se tourner vers lui, c'est que c'est aussi un Dieu qui a décidé de prendre, il n'est pas venu simplement prendre connaissance, se renseigner, faire de l'humanitaire, du tourisme ici-bas, mais s'il est venu, c'est pour connaître, vivre cela, mais aussi prendre sur lui le prix de notre responsabilité individuelle et collective dans tout ce bazar, dans ce monde qui ne tourne pas rond, dans ce monde désormais imparfait. Il n'est pas resté les bras croisés, mais il est venu pour prendre lui-même, pour réparer lui-même le prix de notre dégât. Et quatrièmement, c'est le plus beau. Pourquoi on veut se tourner vers Dieu? Parce qu'on sait qu'un jour, Dieu est dès aujourd'hui, Dieu nous offre l'espérance, l'assurance, plus que l'espérance, l'assurance, qu'un jour, il recréera un monde sans larmes, sans mal, sans douleur, sans virus, sans mort. C'est les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse qui nous en donnent un aperçu glorieux. C'est tout petit, mais c'est un aperçu glorieux de ce qu'un jour Dieu fera. Alors pour résumer, oui, le mal est un appel à nous tourner vers un Dieu qui ne tolère pas le mal, un Dieu qui sait très bien ce dont il s'agit, un Dieu qui est venu régler le problème en Jésus-Christ, et un Dieu qui promet un jour de tout recréer, sans mal, sans mort et sans virus. Et en attendant ce grand jour, Dieu est patient avec nous. Il est patient et veut offrir au plus grand nombre la possibilité de prendre cette issue de secours. Alors je ne sais pas comment il fait pour être aussi patient. Moi qui n'arrive pas à être patient avec les Legos de mes filles, comment Dieu fait pour être aussi patient? Regardez d'ailleurs la parabole qui suit le texte du jour. Regardez comment Jésus enchaîne. S'il enchaîne sur cette parabole, ce n'est pas un hasard, hein. Regardez comme il dit, verset 6 à 9. Jésus, dans la foulée, donc dit cette parabole, « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, oh, « Ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, j'en trouve pas, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il de la terre inutilement ?» Le vigneron lui dit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour de lui, j'y mettrai du fumier. » Peut-être qu'à l'avenir, il portera du fruit. Sinon, tu le couperas. Que notre Dieu est patient. Il ne se contente pas d'attendre patiemment les bras croisés, mais il remonte les manches, il met du fumier et de l'engrais pour que chaque arbre puisse finir par porter du fruit. Que Dieu est bon, que Dieu est patient. Que nous puissions toujours plus entendre cet appel à se tourner vers lui. Et que cet appel se fasse, qu'il se fasse dans le fracas d'une tour qui tombe ou dans le silence d'un virus qui se propage. Que l'on puisse entendre son appel. En conclusion, rien de plus. Si ce n'est toujours ces questions que vous entendez, mais qui sont aussi en vous, ces questions que vous entendrez, peut-être auxquelles on vous demandera de répondre un jour. Toi qui es chrétien, si ton Dieu existe, pourquoi tel crime? Pourquoi tel accident? Pourquoi tel virus? Alors, vous penserez à ce texte de Luc 13, qui nous montre que ça ne sert à rien de chercher une logique et une responsabilité spécifique dans chaque détail de ces drames, ni d'y voir la preuve de l'inexistence ou de l'impuissance de Dieu. Bien au contraire. Le mal est un rappel que notre monde ne tourne pas rond. Un rappel que nous vivons dans un monde imparfait. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu du Dieu parfait. Mais plus qu'un rappel, le mal ici-bas est un vibrant appel à nous tourner. Peut-être au prix d'un périlleux demi-tour. Peu importe, l'essentiel c'est de le faire. À nous tourner vers un Dieu saint, sauveur, patient, bon et rédempteur. Alors, chers amis, qu'à travers cette pandémie mondiale, qui nous concerne tous, ou alors peut-être des épreuves spécifiques qui sont les vôtres, qu'un maximum de personnes, ici ou à Cavaillon comme ailleurs, puissent entendre cet appel, entendre ce rappel et répondre à cet appel de la part de ce Dieu Sauveur. Et que nous concernant, nous puissions toujours faire plus preuve de compassion envers ceux qui sont touchés, directement ou indirectement, ceux qui souffrent, et que nous puissions leur témoigner du secours que Dieu veut offrir à chacun et à chacune. Amen.